l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Dernière visioconférence prévue par la Maison de la Prévention Santé pour ce mois de janvier. Rendez-vous donc le mardi 26 janvier à partir de 14h30 avec le docteur Marciano, gastro-entérologue sur le thème « Les troubles du transit ». Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors le transit intestinal est le voyage qui effectue nos aliments tout au long du tube digestif. Qu'appelle-t-on les troubles du transit ?
Bien, les troubles du transit sont les anomalies, si vous voulez, qui peuvent se dérouler lors de ce voyage des aliments qu'on ingère. Et le trajet des aliments part de la bouche, traverse l'œsophage, l'estomac, ensuite tout l'intestin grêle, le côlon, le gros intestin, pour arriver jusqu'au rectum où les résidus alimentaires sont expulsés. À chaque étage, il peut y avoir des anomalies qui font que ça va entraîner deux troubles. Essentiellement, il y a deux troubles du transit qui sont soit la constipation, c'est-à-dire diminution du nombre des selles, ou alors, à l'inverse, c'est la diarrhée, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de selles ou l'augmentation ou la modification de la consistance des selles qui deviennent beaucoup plus molles, voire franchement liquides. Voilà.
Quelles sont les raisons de ce trouble du transit ?
Il y a des causes de constipation et des causes de diarrhée qui sont différentes, évidemment. Alors, je veux insister sur une chose très importante, puisque, être constipé ou avoir un peu de diarrhée, ce sont des symptômes assez banaux.
Ça peut arriver.
Et tout le monde dans sa vie a eu un jour une constipation ou une diarrhée. Par contre, la constipation ou la diarrhée peuvent être un symptôme d'alarme d'une maladie sous-jacente, c'est-à-dire le symptôme qui peut révéler une maladie qui peut parfois être grave ou sévère. Donc, il y a un certain nombre de petits signes d'alarme qui doivent alerter, si vous voulez, et faire que il faut aller voir son médecin pour en parler. En particulier, quelqu'un par exemple qui a toujours été à la selle régulièrement et puis un beau jour qui a une constipation, alors pas de deux jours, mais une constipation qui persiste plusieurs semaines et qui est constante et qui va en s'aggravant. Ou lorsque la constipation ou la diarrhée s'accompagne par exemple de douleurs abdominales ou si on maigrit en même temps ou si on a un peu moins faim. Et surtout, un des signes très très important, là j'insiste beaucoup, c'est la présence de sang dans les selles. Voilà, ça c'est vraiment aussi un signe d'alarme, même si on a des hémorroïdes. Alors beaucoup de gens ne s'inquiètent pas parce que j'ai des hémorroïdes, je peux saigner un peu des hémorroïdes. Non, alors surtout si on a plus de 50 ans, si on a un petit peu de sang dans les selles et qu'on a un peu de constipation diarrhée, surtout aller voir son médecin traitant.
En tout cas, le message est passé, docteur.
Merci.
Quels sont les aliments à éviter ou bien à privilégier ?
Je ne vais pas vous parler des causes des erreurs, par contre je vais vous parler surtout comment éviter. Donc, alors, en particulier pour les gens qui ont de la constipation, règles hygiéno-diététiques qui sont très importantes, c'est par exemple avoir une bonne hygiène de vie, essayer d'aller à la salle régulière, avoir une alimentation, avoir une activité physique. Ça, c'est très important. Là, on s'est prouvé que l'activité physique, quelle que soit l'activité, ça peut être de la marche, du yoga, de la natation, mais une activité physique régulière, ça stimule. On le sait, ça stimule le transit intestinal et ça permet d'aller à la selle plus régulièrement. Ça, c'est pour le règle hygiéno-diététique. Pour l'alimentation, ce qui est très important pour les gens qui sont constipés, c'est d'avoir un apport de boissons. Beaucoup de gens ne boivent pas, très peu. On ne peut pas avoir des selles normales, bien hydratées, si on ne boit pas. Donc on conseille au minimum 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Et puis surtout, au niveau alimentaire, il faut avoir un régime qui apporte des fibres. Alors les fibres, c'est ce qui donne le volume des selles. Plus il y a un volume important de selles dans l'intestin, et mieux le transit se fait. Ça stimule le transit. S'il y a une alimentation qui est basée uniquement sur des aliments qui sont totalement absorbés, qui ne donnent aucun résidu, en particulier par exemple si on mange que des protéines, on ne peut pas avoir un très bon transit. Donc ce qu'il faut apporter, des fibres. Qu'est-ce qui apporte des fibres ? C'est surtout les légumes, les fruits et les céréales. Les céréales, très important, par exemple, à base de son, ça augmente le volume des selles, les légumineuses aussi.
Quel est le rôle du microbiote intestinal sur la digestion ?
Alors, c'est très important, le microbiote, on a découvert ça depuis quelques années. Mmh. Le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale, c'est-à-dire ce sont des bactéries qu'on a, qui ne sont pas pathogènes, donc pas dangereuses, et qui sont bénéfiques pour l'organisme, qui sont indispensables à l'organisme, qui se trouvent dans le côlon, et ces bactéries vont terminer la digestion, c'est-à-dire tous les aliments qui n'ont pas été digérés, la majeure partie des aliments sont digérés au niveau de l'estomac et puis après de l'intestin grêle, et c'est au niveau de l'intestin grêle que se finit en grande partie la digestion avec tous les aliments, ce qu'on appelle les nutriments, c'est ce qui résulte de l'attaque des aliments par les enzymes de l'organisme et qui vont être absorbés, qui vont passer dans le sang et servir après. Et donc tout ce qui reste, qui n'a pas été digéré dans l'intestin grêle, ça passe dans le côlon. Et dans le côlon, c'est la dernière étape de la digestion par le microbe, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. On pense actuellement qu'il peut être à l'origine d'énormément de troubles. Hein, on parle même de maladies cardiovasculaires, etc. Alors, ce qui peut altérer le microbiote, c'est d'abord une alimentation déséquilibrée qui va favoriser plutôt tel type de bactéries que d'autres. Donc, ça peut donner des troubles. Ça peut être altéré quand on a eu, par exemple, une gastroentérite virale ou bactériennes, ces virus peuvent détruire la flore intestinale. Et après une gastro-entérite virale, on peut avoir pendant plusieurs mois des troubles, justement parce que le microbiote a été modifié. Mmh. De la même façon, le microbiote il peut être modifié quand on a eu des traitements antibiotiques. Bon, c'est bien connu, les antibiotiques, ils détruisent les mauvaises bactéries, mais ils vont détruire aussi les bonnes. Mmh. Donc, ça va altérer le microbiote. Et donc, ça explique qu'après les traitements antibiotiques, on peut avoir des problèmes de diarrhée qui peuvent durer plusieurs semaines.
Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec l'horloge biologique ?
Oui, tout à fait. Puisque, alors, on sait, par exemple, pour les constipations, que la constipation peut être liée à un trouble de la défécation. Bon, la défécation, c'est un mécanisme assez simple, hein. Bon, personne n'en parle, mais et c'est souvent une espèce de réflexe conditionné, c'est-à-dire c'est l'arrivée des matières fécales dans le rectum, ça distend le rectum, et ça va nous donner, donc il y a des informations qui vont être données au cerveau, et qui vous disent, tiens, tu as envie d'aller à la selle. Mmh. On peut ne pas avoir envie d'aller, ou on peut pas, parce qu'on est en société, on a un sphincter au niveau de l'anus qui sert, on refuse d'aller à la selle, voilà. Mmh. Bon. Mais on peut aussi dire, ah ben j'ai envie d'y aller, ben j'y vais. Mmh. Bon. Mais si on refuse, on le fait trop souvent, systématiquement, parce qu'on est pris. Ben, ce réflexe, progressivement, il va s'émousser. Et plus on le refuse, et moins on va ressentir le besoin d'aller à la selle. Donc, l'horloge biologique, elle intervient, elle peut intervenir là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'essayer d'aller à la selle à heure régulière. En particulier, il y a un réflexe d'envie d'aller à la selle qui met en marche tout l'organisme au moment du repas. C'est-à-dire l'arrivée des aliments dans l'estomac, bien l'estomac il va donner des informations à l'intestin, il va dire prépare-toi, les aliments arrivent. Mmh. Et donc on va souvent avoir envie d'aller à la selle, souvent après les repas. Donc il faut conserver ces réflexes, c'est une horloge, on est programmé un peu pour ça, et il ne faut pas la dérégler.
Dernière question, docteur, est-ce qu'avec les confinements successifs, les contraintes et les tracas liés à la pandémie, est-ce que cela a augmenté ce type de troubles ? Est-ce que vous l'avez constaté ?
Pour l'instant, on n'a pas de chiffres. Bon, ce qu'on peut, on le saura peut-être dans les mois ou dans les années qui viennent, parce qu'il y a des gens qui vont étudier ça. Hein. Mmh. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut théoriquement entraîner des troubles, en particulier lorsque le confinement est long, et on sait que pendant le confinement, bon, les gens sont restés sédentaires hein, chez eux, donc pas d'activité physique, en fait très peu. Mais bon, il y en a qui ont fait des marathons chez eux, mais bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup quand même. Mais la majorité des gens, bon, sont restés un peu statiques. Donc, si on diminue l'activité physique, ils ont modifié leur alimentation. Beaucoup de gens un peu abusés ont pris du poids, avec des régimes alimentaires assez déséquilibrés, peut-être un peu trop riche en graisse, on fait des petits apéros à la maison, etc. Bon, tout ça fait que ça peut être à l'origine, en particulier de constipation. Bon, pour l'instant, enfin, on ne peut pas en apporter la preuve scientifique.
Merci, docteur Marciano, d'être venu dans le studio de Grand Sud FM pour nous parler de cette thématique. Les troubles du transit, c'est à voir sur la chaîne YouTube de la Maison de la Prévention Santé. C'est ce mardi 26 janvier à partir de 14h30.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.